Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Avec Jacques Delplat, il est économiste et il vient de fonder le fonds Climatech qu'il préside, qui est destiné donc à financer des actions de décarbonation. Éric Ayer, directeur du département analyse et prévision à l'OFCE, membre du Haut Conseil des finances publiques. Il est le co-auteur d'Une autre voie est possible vers un modèle social écologique chez Flammarion Champs Actuels. Puis Philippe Martin, doyen de l'école des affaires publiques de Sciences Po, membre du cercle des économistes, partenaire de cette émission chaque jeudi. Jacques devrait venir plus souvent, m'écrit Pyrine. Voilà, c'est sympa. Venez plus souvent, Jacques. John écrit, la BCE ne peut rien changer à une inflation apportée en Europe, mais maintenir les taux bas, c'est se priver d'une potentielle politique de relance dans le futur. C'est aussi un argument qui s'entend. Et Fredo m'écrit, Macron, président des riches, je crois que les chiffres parlent d'eux-mêmes, on ne peut pas le nier. Ah ben si, voilà, est-ce que les chiffres parlent d'eux-mêmes? Qui doit payer, Philippe Martin? On sait que, oui, sur les 3 points de PIB, là, l'État en a assumé un peu plus de la moitié. Les entreprises, en 2023, vont en payer un morceau, évidemment. Les ménages aussi, mais dans les ménages, qui on fait payer?
Non, mais c'est la bonne question. En effet, on sait qu'en sortie de Covid, les ménages, et en particulier les ménages les plus aisés, ont beaucoup épargné. Alors, c'est parce qu'ils n'ont pas pu consommer. Hein. C'est pas une mauvaise chose en soi. Mais donc, quand même, il y a un bas de laine très important des ménages les plus aisés. Je pense que dans une situation de crise énergétique, a priori, on l'espère temporaire, ben, pour financer en effet l'absorption qui est faite par l'État du choc, je crois qu'il faut potentiellement avoir un surcroît de taxation sur les très hauts revenus.
Un impôt exceptionnel sur les riches.
Non mais c'est déjà arrivé, c'est-à-dire que le taux marginal de l'impôt sur revenu il est à 45%, on pourrait dire pendant un an ou deux ans, on le passe à 55%. Et de ce point de vue, Emmanuel Macron, il a une vraie crédibilité sur le fait que c'est pas un président qui veut augmenter de manière permanente les impôts. Donc il devrait utiliser cette crédibilité, parce que évidemment ce qu'il ne faut pas, c'est de se dire on va augmenter de manière permanente le taux d'imposition sur les revenus.
Ça, c'est l'inquiétude que vous allez susciter.
Évidemment,
hein, parce qu'en France, quand on fait un truc provisoire en termes de fiscalité, mais généralement, ça
s'installe. Tout l'intérêt de la politique, justement, de baisse des impôts de Macron, c'est d'avoir une vraie crédibilité, ce qui lui permet, en temps de crise, de dire de manière temporaire, je demande une certaine solidarité aux ménages les plus aisés.
Là-dessus, pas trop long, mais là-dessus, Éric Ayer, monter le marginal pendant un an ou deux ans.
Moi, je suis d'accord avec Philippe.
Sur le fait de mettre le marginal à 55% pendant un an ou deux ans.
Oui. Bon. Moi, je crois qu'on est un peu tous d'accord, du coup, parce que je serais d'accord. Mais vous voyez, globalement, il faut quand même rappeler, les aides, il y a eu des aides exceptionnelles pendant la Covid, aides exceptionnelles pendant cette crise énergétique. On ne les a pas ciblées. On peut critiquer le fait de ne pas les avoir ciblées, mais de fait, on ne les a pas ciblées. C'est-à-dire que des ménages et des entreprises qui n'en avaient pas besoin en ont eu.
Ouais, ça, c'est une catastrophe.
Et donc, on peut très bien se dire.
Le fait que des entreprises qui n'en avaient pas besoin.
Surtout les ménages. Là.
Et des ménages.
Plus j'ai un gros SUV, meilleur c'est.
Eh bien, d'accord. Eh bien, donc, une idée, ça va être de dire ce qu'on a pris de façon. Parce qu'on pouvait pas faire autrement, on a voulu aller vite et moi je critique pas
facile,
le côté OK. Et du coup, de façon exceptionnelle comme ces mesures exceptionnelles, on le récupère de façon exceptionnelle. Le pire entre nous serait de dire ces mesures exceptionnelles qui ont coûté très cher, on va le financer uniquement par des réformes structurelles qui vont peser sur le bas de la distribution. Et c'est ça qui m'inquiète un peu.
Vraiment, pour ces retraites et assurance chômage.
Et oui, et ça, le message va être catastrophique dans ces cas-là. Donc, je pense qu'il vaut mieux dire c'est un impôt, qu'on appelle Ukraine, Covid, bien montrer pourquoi il est là et qu'il est de façon très transitoire. Mais voyez, comme en 95, me semble-t-il, Juppé avait fait un taux d'IS exceptionnel que Jospin a enlevé. Donc vous voyez, ça peut être de droite, de gauche, c'est exceptionnel et ça n'a pas vocation à rester, et c'est pour ça qu'il faut mettre un petit nom pour bien rappeler d'où ça vient.
J'entends ce que vous dites sur les deux grosses réformes structurelles, d'ailleurs une fois de plus mises en avant par le FMI il y a deux jours, qui sont une sorte de facture. On peut aussi imaginer que ces deux réformes structurelles, c'est pas non plus qu'une facture, ce sont aussi des leviers pour augmenter le taux d'emploi. Et à ce moment-là, c'est du structurel qui a quand même une vertu.
Bon. Ok, à court terme, quand même, ça pèse.
Mais
Non, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire les deux.
Vous pouvez
faire la réforme. Il ne faut pas dire les seules façons de récupérer des milliards, c'est par ces réformes-là. Et on ne met pas à contribution des ménages qui en ont profité alors qu'ils n'en avaient pas réellement besoin.
Il faudrait, dans ces cas-là, un engagement ferme sur le fait que c'est pour un an ou deux ans et pas plus. Parce que vous vous souvenez de la CRDS qui devait disparaître en même temps que la CADES devait s'éteindre. Ça remonte à 1996.
C'est un exemple. Il y a le contre-exemple, c'est la surtaxe IS.
Sécheresse.
La quoi, là
la surtaxe IS ou...
L'impôt sécheresse de 76.
Oui.
Et en 95,
la vignette auto aussi.
Bon, qui a disparu, donc ça existe.
Les retraites. Jacques m'envoie toujours des propositions avant de venir dans l'émission. C'est toujours inattendu. Alors, vous proposez quelque chose. Je vais le résumer dans mes mots pour qu'on aille droit au but. Et vous me direz comment ça fonctionne et ce que vous voulez dire au fond. Vous imaginez un système des retraites qui serait à deux niveaux. Il y aurait un premier niveau qui serait complètement piloté par l'État. L'État verserait à partir de l'impôt, payé par l'impôt, les 750 premiers euros de pension de retraite pour tout le monde. Ça, c'est le modèle dit beveridgien. Et puis, l'étage numéro 2, au-delà de ce montant, on passe à un modèle bismarckien. Donc, un modèle de financement par répartition totalement géré par les partenaires sociaux. Ils ont la main sur tout. Ils ont la main sur les mesures de pénibilité. Voilà. Ils ont absolument la main sur tout. Ils seront rémunérés pour ça. Mais ils ont une interdiction, c'est de terminer l'année dans le rouge. Dès l'instant où ils bouclent l'année dans le rouge sur cette partie-là, cet étage 2, eh bien, l'État reprend la main, exit les partenaires sociaux, et ils ne reviennent qu'à partir du moment où on est revenu à l'équilibre.
Oui.
Est-ce que c'est imaginable?
Oui, ça existe
quelque part.
Ça existe dans beaucoup de pays, notamment dans d'Europe du Nord et autres. Il y a déjà une bonne partie du système actuel qui est comme ça, sans qu'on le sache.
Oui, oui.
Le système actuel est tellement incompréhensible que...
Vous dites le système actuel, notre système actuel par
répartition. Oui, parce qu'il y a des subventions de l'État, tel régime et tout. Moi, je propose très simplement que l'État finance la première moitié, grosso modo.
Oui, j'ai bien vu.
Et que... il fasse ça avec le budget, le projet de loi de finances.
Donc
les syndicats, ils n'ont rien à dire. Comme c'est de l'impôt, les syndicats n'ont rien à dire.
Rien à dire. Donc ce ne sont plus des cotisations.
Voilà.
Ce ne sont plus des
cotisations. C'est à proportion des trimestres, comme aujourd'hui, des trimestres payés. Voilà. Bon. Donc, et après, tout le reste, et c'est ça qui est important, tout le reste au-dessus, c'est les syndicats, enfin, c'est les partenaires sociaux qui s'en occupent. Sinon, ce n'est qu'une boîte à baffes. Aucun gouvernement ne peut gagner là-dessus. Les syndicats, ils disent « Ah oui, mais la pénibilité... » Ils ont raison, c'est eux qui ont l'information sur le terrain.
Mais alors,
et donc, ils se débrouillent.
Ils se débrouillent, mais comment? Ils n'ont pas la main sur le... Enfin, ils se débrouillent, ils vont monter les cotisations pour être sûr d'être
à l'équilibre. Comme ça doit passer
c'est ça l'histoire.
Non, mais comme ça doit passer par le Parlement, par le projet de loi de finances de la sécurité sociale, ça, ils ne peuvent pas...
Eh bien, voilà. Donc, ils ont la main aujourd'hui sur les cotisations
non.
chômage, à l'UNEDIC. Oui. C'est le seul impôt qui n'est pas décidé
par mais les retraites, ça passe par la loi de finances. Des sélections sociales.
Oui.
Mais les gouvernements, ils ne sont pas idiots, ils ne vont pas voter massivement contre les propositions des partenaires sociaux. Il y a les syndicats salariés et patronaux.
Oui,
c'est le dialogue social.
Mais parlons net, Jacques Delplat, ça veut dire que les cotisations vont monter si on s'interdit au moindre.
Peut-être ou peut-être pas. Je ne sais pas. Moi, j'en sais rien.
Ah ben, je ne sais pas.
Et surtout, le troisième point qui est très important, même mon collègue et ami de l'OFCE est d'accord avec moi.
Allons-y.
La répartition.
Oui.
C'est la répartition dans l'année des cotisations prélevées pour donner aux retraités de l'année. Donc tous les gens qui aiment la répartition, moi mais aussi normalement tous les syndicats ouvriers de Sud à la CFTC, ils devraient applaudir que la répartition, il y a zéro déficit. Par construction, par définition.
Un système d'assurance.
Et ce jour-là où on met une contrainte budgétaire importante, eh bien, après, ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent donner la retraite à 45 ans aux cheminots et à 35 ans à la Banque de France, ils se débrouillent. Bon. Mais devant le regard du public, et ils se débrouillent.
Bon. Normalement, un système d'assurance doit être à l'équilibre. On avait des assureurs privés pour nos voitures qui étaient complètement dans le rouge, je pense pas qu'on aurait envie.
Mais c'est la première partie étatique qui fait l'ajustement macroéconomique. Et les syndicats, ils se débrouillent.
Ça vous êtes séduit par l'idée, je sais pas, Philippe Martin?
Moi, je suis un orphelin de la réforme systémique, c'est-à-dire que je
vous êtes orphelin de la réforme systémique.
Bah, c'est-à-dire qu'on l'a pas faite, donc.
Ah, elle l'a pas faite, mais voilà, je savais pas que vous étiez orphelin de celle-là.
J'étais favorable à une réforme qui simplifie le système, qui unifie le système, etc. Donc
réforme à laquelle plus personne ne comprenait rien à la fin. Hein. J'ai reconnu moi-même que je commençais à avoir du mal à l'expliquer.
Je suis d'accord, mais toute réforme des retraites est quand même relativement complexe parce que aussi le système, mais aussi parce que le système système actuel est extrêmement difficile à comprendre.
Les paramètres, c'est plus complexe.
On est d'accord. Alors, les paramètres, mais on est bien d'accord que le débat actuel, c'est pas du tout le débat qu'essaye de lancer Jacques Delplat. Hein.
Non, mais j'aime bien les idées neuves.
Mais bien sûr, tant mieux. Au contraire,
même un peu iconoclaste.
Je pense qu'à un moment, de toute façon, il faudra revenir à une grande réforme du système des retraites. Donc là, c'est pas le débat actuel, mais le débat actuel, il est pas sans importance quand même, hein, sur l'âge d'ouverture des droits, sur la durée de cotisation, comment on va mixer ces deux paramètres, parce que à la fois en termes d'équilibre financier, de retour rapide ou pas à l'équilibre financier, et puis en termes d'inégalité, c'est pas du tout ce débat, il va être extrêmement important. Donc on va pas l'avoir aujourd'hui parce que c'est un peu complexe, mais je suis d'accord que c'est intéressant d'avoir des débats conceptuels sur ce système des retraites, mais c'est pas le débat qu'on va avoir dans les trois mois qui viennent.
Bon, cette proposition qui effectivement n'éteint pas les sujets sur la durée de cotisation et l'âge de départ. Et d'ailleurs, vous le dites, Jacques. Hein,
c'est les syndicats, patronaux et salariés qui se débrouillent. Ils décident.
Ils se débrouillent, mais enfin, vous dites que sur l'étage 1, qui est totalement étatisé, payé par l'impôt, l'État peut décider qu'il verse ses montants à un âge de départ légal, qui ne serait plus 62 ans.
Et aujourd'hui, pour le minimum vieillesse, c'est 65 ans.
Pour le 65 ans pour le minimum 10. Ouais. Eric, là-dessus, si il y a quelque chose à rajouter.
Jacques a toujours beaucoup d'idées originales, stimulantes.
Je me souviens de sa dette bleue, sa dette rouge.
C'est toujours génial. Bon, c'est pas la plus révolutionnaire, celle-là. Entre nous, ou alors je l'ai pas compris.
Il est déçu.
Non, mais oui, un poil, parce que ça casse pas le système.
Bien,
d'accord,
bien
ok. Donc, ça simplifie un peu. Alors, je suis un peu aussi d'accord avec Philippe, sans être orphelin. Réellement, je trouve qu'on a manqué la simplification, et c'était ça qui était bien. Après, elle était un peu trop compliquée. Non, mais oui, parce qu'on sait pas de quoi.
Oui,
il y avait trop de réformes dans la
route. La rue ne te donnera pas une deuxième truc. Ça a été planté une fois. Alors, mais ça va pas revenir avant 20 ans.
Non, mais je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce qui est planté? Je pense que c'était le appoint qu'il fallait pas faire, mais moi je me semble, je suis orphelin en tout cas, on essaye d'unifier tous les systèmes, et ça je pense que c'était une bonne idée d'essayer d'unifier, de simplifier, je pense. Mais après, si en plus on veut
plus
passer
sûr de ça, Eric, aujourd'hui.
Oui, non, mais je
me demande s'il faut pas un régime privé, un régime public, un régime pour les indépendants.
Je pense après, bien sûr que on se plie à ce que veut aussi la majorité, mais moi il me semble que c'était la bonne réforme. Ensuite qu'on passe d'annuité au point, ça je pense c'était, il fallait pas le faire, parce que ça amplifiait le problème. Et en plus, on mettait du paramètre. Donc, il y avait trop dans la réforme précédente. Mais je pense qu'il fallait effectivement unifier pour qu'on sorte un peu de ce débat. Est-ce que vraiment les retraites des fonctionnaires sont beaucoup plus généreuses que les retraites du privé ? Qu'on mette tout ça à plat et qu'on le mette dans le même régime et qu'on aille vers ce que propose Jacques, pourquoi pas ? Il n'en reste pas moins qu'il y a quand même les questions centrales. C'est combien on veut consacrer à nos retraites de points de PIB ? Est-ce que c'est 14 ? Est-ce que c'est 10 ? Est-ce que c'est 12 ? Qui le fixe ? Oui. Est-ce que ça va être les partenaires sociaux qui vont le fixer ? Alors que c'est central, combien on veut mettre ? Alors parce que j'ai compris que la base, ça va pas bouger, et que c'est ensuite les cotisations qui vont donner le montant. Qui décide ? Est-ce que c'est 14 ? Est-ce que c'est 10 ? Est-ce que c'est 12 ?
Point de PIB,
etc. De point de PIB. Ça, je pense que c'est important. Ça ne répond pas au problème. Alors je suis d'accord, il faut que ça soit financé année par année. Alors quand on a une petite crise, on peut admettre un petit déficit, mais un excédent l'année suivante.
Non.
Bon, enfin, ok. Moi, potentiellement, les stabilisateurs automatiques, c'est important.
C'est avec l'étage 1,
okay.
Pas l'étage 2.
Bon, peut-être, d'accord, mais il y a cette question-là. Et la question aussi de comment, ensuite, on indexe les retraites. Ouais, est-ce que c'est sur les prix ? Est-ce que c'est sur les salaires ? Et ça, moi, je pense que ça, c'est une bonne réforme. Je pense que la réforme de 93, de Balladur, elle est catastrophique. Quand on désindexe les pensions des salaires et qu'on le met sur le prix, alors que les cotisations sont indexées sur les salaires, ça, je pense qu'on paupérise, sans le dire, relativement, les retraites.
C'est pour ça.
Mais d'accord.
C'est pas ce qui s'est passé, parce qu'on reste dans une situation où les retraités ont 110% du revenu des actifs.
Oui,
des
je suis d'accord, mais tu
et
as bien
la deuxième
vu
chose, c'est que si on n'avait pas fait.
Bien que hors
non, non, mais.
Quand même,
ça pose un problème à terme, hein, si les retraites sont indexées sur les prix et pas sur les salaires. Mais n'empêche que c'est ce qui a évité qu'on passe à 16 ou 17% du PIB.
Oui, mais sans le dire.
Les retraites. Après, je suis d'accord, ça n'a pas été transparent du tout. Voilà, okay.
C'est pas la première fois, Eric, qu'on réforme sans que ça se voit.
Bon, oui, mais c'est intéressant qu'en fait, la très grosse réforme de retraite, c'est celle de 1993.
Oui.
C'est celle qui désindexe les retraites sur les salaires. C'est ça qui a été vraiment énorme.
Parce que, en fait, ce que vous proposez là, Jacques, c'est toujours 14 points de PIB à l'arrivée ?
Mais j'en sais rien, c'est pas à moi de décider.
Ah, c'est pas vous de décider.
Mais je pense que c'est à l'État de décider. En tout cas, c'est une décision démocratique et je ne vois pas pourquoi.
D'abord, la première chose, si l'État, dans mon idée, l'État, aujourd'hui, c'est 65 ans, minimum vieillesse, c'est ça. Donc, sur la partie première, l'État commencera à 65 ans. Si les syndicats et partenaires sociaux veulent absolument maintenir à 60 ans, ben, ils se débrouillent avec leur partie numéro 2 de payer l'intégralité des retraites entre 60 et 65 ans.
Bah, sans monter
les cotisations. Juste, il faut que les gens soient responsables.
Ah ouais,
voilà. Et quand ils ont une contrainte budgétaire dure, ça change tous les esprits. Mais Janos Kornay, qui était un économiste hongrois, disait que le communisme est mort parce qu'il y avait soft budget constraint. C'était des systèmes où il n'y avait aucune rigueur et tout a explosé.
Macron est obligé d'être président des riches car il n'y a plus qu'eux qui paient des impôts.
La CSG, la TVA est payée par beaucoup de gens.
Je ne sais pas comment l'opinion réagirait à un projet comme celui-là. Est-ce que c'est un projet de technicien qui n'intéresserait pas l'opinion ? Est-ce qu'on se dirait... est-ce que ça pourrait installer l'idée qu'il y a une nécessaire responsabilité sur un sujet comme celui-là ?
Non, c'est les syndicats qui je veux convaincre. L'opinion, j'en sais rien. Bon. Mais c'est les syndicats qui mettent les gens dans la rue.
Non, mais tout de même, les syndicats, généralement, c'est l'annonce d'une borne d'âge qui bouge. Hein.
Mais oui, mais du coup, non, mais est-ce qu'on Éric le fait plutôt par la durée, par là ? Je pense qu'on ne répond pas à ces questions-là.
C'est les syndicats qui se débrouillent.
Moi, mais oui, mais on ne peut pas laisser ça aux syndicats.
On ne peut pas le laisser au gouvernement parce que chaque fois, il y a 2 millions de personnes dans la rue. Non, mais... Donc voilà. Moi, je regrette, à titre personnel, que ce ne soit pas le gouvernement qui décide de l'intégralité des retraites. Voilà, c'est mon jugement tout à fait personnel. Non, c'est ma préférence personnelle.
Beveridge à 100%.
Et je pense que les syndicats n'ont aucune légitimité là-dessus. Ça, c'est mon opinion personnelle. D'accord. Je constate que cette solution, elle ne marche pas. Donc j'essaie de réfléchir à quelque chose qui serait acceptable par les gens dans la rue, et en particulier par les syndicats.
L'étatisation, c'est ce à quoi on assiste pour l'assurance chômage, par exemple. Très objectivement.
Oui, oui.
Bon, et on se dirige tout droit vers un système totalement étatisé.
Non, pas totalement. A priori, c'est une gouvernance où il y aurait, en effet, les partenaires sociaux, c'est-à-dire patronat et syndicats, et aussi l'État. Mais je rappelle que
Vous avez vu l'ambiance gouvernance tripartite, là, chez Dussopt, il y a deux jours.
Mais dans tous les pays européens, c'est une gouvernance tripartite. La France est le seul pays où l'assurance chômage, alors jusqu'aux réformes récentes, était entièrement gouvernée par le patronat et les syndicats. Et quand même, il me semble que l'État a son mot à dire, parce qu'à la fin, c'est quand même l'État qui garantit la dette du système. Je pense que c'est normal que l'État soit aussi impliqué dans cette gouvernance.
Là, on sent clairement que l'État est plus qu'impliqué dans cette gouvernance.
Absolument.
Les partenaires sociaux sont arrivés chez Olivier Dussopt en début de semaine. Il leur a dit, voilà ce qu'on fait. D'ailleurs, on n'utilise plus le mot de négociation.
Il faut retrouver une gouvernance qui soit plus équilibrée. Mais il ne faut pas revenir au système où finalement les partenaires sociaux décident et l'État paye en partie.
La gouvernance sera un sujet qui sera au menu du début de l'année 2024. Mais jusqu'à la fin de l'année 2023, c'est vraiment, a priori, l'État qui va prendre la main sur à peu près tout.
Si je peux reprendre la dernière phrase de Philippe, je ne suis pas complètement d'accord. Est-ce qu'on peut dire que c'est les syndicats qui décident et l'État qui paye dans les dernières mesures ?
Absolument.
Je crois que là, aujourd'hui, même si on regarde depuis 2000, depuis qu'il y a un déficit de l'assurance chômage, parce qu'avant 2000, l'assurance chômage était équilibrée, malgré des taux de chômage élevés. Depuis 2000, effectivement, il y a un déficit de l'assurance chômage qui, à mon sens, n'est pas dû aux partenaires sociaux, mais aux décisions de l'État, d'accord ?
De cofinancer le Pôle emploi et de prendre à sa charge les intermittents.
Exactement. Et ça, est-ce que c'est dû... Enfin,
On retirait ces éléments-là, on serait à l'équilibre, vous croyez ?
Alors ça, c'est les travaux de Bruno Coquet qui le montrent, et qui montrent, en gros, globalement, la dette... Alors après, il y a l'activité partielle, mais ça aussi, c'est une décision de l'État, de mettre l'activité partielle et de dire à l'UNEDIC, tu finances un tiers de cela. Ouais, c'est ça qui a mis dans le rouge, les finances de l'UNEDIC. Bon, donc c'est plutôt dans l'autre sens, me semble-t-il, et je pense que c'était relativement bien géré d'un point de vue de l'équilibre financier. Il n'y avait pas de déséquilibre de l'assurance chômage quand c'était uniquement les syndicats qui le géraient.
Disons un mot justement de l'assurance chômage. J'aimerais avoir votre avis sur l'arbitrage qui a été... C'est un arbitrage du gouvernement, qui a été retenu par le gouvernement. Donc cette durée d'indemnisation qui sera le seul et unique paramètre qui sera amené à évoluer en fonction de la météo de l'emploi, les périodes vertes ou périodes rouges, avec deux paramètres de variation, à la fois un taux de chômage pivot à 9%, mais aussi des variations trimestrielles de plus 0,8 qui pourrait faire basculer d'une période à l'autre. Et donc, en période verte, ça va être le cas avec les 7,3 d'aujourd'hui, et donc normalement début février, tous les gens qui ont perdu leur job et qui seront au chômage début février devraient connaître la nouvelle donne de durée d'indemnisation, amputée d'un quart quand on est en période verte. Qui a un avis là-dessus ? Qui considère qu'il fallait le faire et que pour des droits pleins à 24 mois tombés à 18 mois, on reste sur quelque chose quand même qui apporte une sécurité assez importante. Et Jacques, oui, allez-y.
Moi, je suis contre.
Vous êtes contre quoi le...
Ben, le principe même que l'État intervienne là-dedans. Je pense que ça doit être renvoyé.
Là, c'est de la gouvernance encore.
Ben oui, mais c'est ça. C'est-à-dire que là, il y a un gars qui sort de... que personne ne connaît, Monsieur Dussopt, à peu près, qui dit, ah ben, ça va être... J'ai décidé dans ma petite tête que c'était 9%, et puis ça baisse de ce 6%, là, d'où ça sort. Il n'y a aucune explication. Et donc, l'idée peut-être de réduire la période de chômage est probablement une bonne idée, hein, puisqu'on est le plus... Mais c'est surtout, je ne vois absolument pas pourquoi. Ça sort comme ça, c'est pas discuté. Et là, je regrette que les syndicats fassent pas des manifs monstres là-dessus. Enfin, c'est pourquoi ça devrait être laissé aux syndicats et aux patrons. Voilà.
Comme en Suède. On n'a jamais mobilisé vraiment autour des réformes d'assurance chômage, alors que celle des retraites, il suffit de les effleurer pour que tout le monde s'excite. C'est de la gouvernance quand même. Philippe Martin, soit sur la gouvernance à nouveau, ou sur le principe de dire qu'on va indemniser moins longtemps. Parce que ça incitera à rechercher un emploi plus rapidement.
Alors, Jacques l'a dit, c'est vrai que la France a une durée d'indemnisation qui est parmi les plus longues en Europe. Et sur l'assurance chômage, il faut trouver le bon point d'équilibre entre l'incitation et quand même la durée d'indemnisation peut avoir un impact sur l'incitation à reprendre un emploi. Il ne faut pas qu'elle soit trop forte parce que sinon, on reprend n'importe quel emploi. Et l'autre partie de l'équilibre, évidemment, c'est l'assurance des revenus et qui est très importante aussi d'un point de vue non seulement individuel, d'un point de vue social, mais aussi d'un point de vue macroéconomique, hein, pour que quand il y a une augmentation du chômage, il n'y ait pas un effondrement de la consommation qui aggraverait la récession. Donc il faut trouver ce point d'équilibre. Là où je suis d'accord, c'est que ce point de moins 25%, 9%, etc., moi j'aurais bien voulu voir les travaux, et je ne sais pas si on les a, de simulation de qu'est-ce que ça signifie d'un point de vue à la fois macroéconomique, en termes d'inégalité, en termes sociaux. Donc je pense, moi je suis favorable au fait que la durée d'indemnisation puisse varier au cours du cycle. Je pense que d'un point de vue macroéconomique, ça se comprend, c'est-à-dire que on met davantage le poids sur la question de l'incitation quand le taux de chômage est faible et sur l'assurance quand le taux de chômage est élevé. Donc moi, je comprends tout à fait cette logique. D'un point de vue quantitatif, j'aimerais bien comprendre et voir les chiffres, les simulations. On est capable de faire des micro-simulations sur comment ça touche les différentes personnes et qu'est-ce que ça signifie en termes d'équilibre général macroéconomique quand on fait ce genre de choses. Donc je comprends la mécanique économique, mais c'est vrai que j'aimerais bien voir l'étude d'impact quantitative.
Martin a raison. Hein.
Éric, ailleurs. Oui,
alors j'allais vraiment rebondir là-dessus. Ça. L'étude d'impact, c'est quand même incroyable qu'il n'y en ait pas.
Et d'accord. Il y a eu plein de travaux qui ont été menés.
Alors qu'il y a des travaux, mais là on ne voit pas l'étude d'impact sur cette mesure-là. D'accord. Enfin, donc on comprend pas pourquoi le 9%, etc. Moi, entre nous, ma vision, c'est que le 9%, on l'atteindra plus jamais. Hein. Vous voyez, il y a quand même des grandes chances. Parce qu'aujourd'hui, quand il y a des grandes crises, on met de l'activité partielle, donc le taux de chômage n'augmente pas, on le fait par du déficit. On a compris que l'activité partielle, c'était une bonne chose. Donc
il a fallu des années pour comprendre que le compte s'arbaille en Allemagne.
Compte tenu de la population active et du ralentissement de la population active et de ces éléments-là, on ne sera jamais dans le rouge.
Je suis certain.
Et
donc
je pense qu'il ne faut jamais dire jamais.
Oui, mais enfin, il y a vraiment des très grandes chances qu'on soit
dans le rouge. Mais là où Éric a raison, c'est que cette réforme, je réduis d'un quart la durée.
Et il y a une chance qu'on ait un autre registre qui soit le bleu, enfin encore plus, et qu'on durcisse parce que c'est ce que j'ai cru comprendre, c'est que si on arrive près du plein emploi, ils n'ont pas déterminé quel était le taux de chômage de plein emploi, on rediminuerait encore la durée. Donc la probabilité est plus qu'on continue à durer.
Vous l'avez entendu ça,
Eric? Ah,
si, il y a terminé, on a 3 minutes. Donc,
okay. C'est pour ça, moi je voulais préempter le débat. Je voulais parler de la révolution sur le prix du carbone.
Ah oui, mais alors terminez juste, d'accord. Eric.
En non, un mot et moi, après, me semble que la durée, il ne faut pas la réguler en fonction de la conjoncture, même si je suis quand même toujours très contracyclique.
Oui,
plutôt, mais elle est déjà contracyclique, l'assurance chômage, mais plutôt sur la microéconomiquement, d'où vient la personne. Si elle est très éloignée du marché du travail, il faut une durée du travail très longue et avec des politiques actives pour le retourner. S'il est très proche du marché du travail, il faut une durée du travail plus faible. Donc ça, c'est bien plus efficace, nous dit Pizarides, notamment, et des prix Nobel d'économie.
Vous vouliez en parler, on termine avec ça, on a 2 minutes 30, Jacques Delplat. La révolution sur le prix du carbone.
Ah oui, c'est majeur, énorme, gigantesque. Le ministère de l'Environnement américain a publié le 10 novembre ses nouvelles estimations de ce que devrait être le prix mondial.
Mondial.
Du carbone, partout.
C'est l'objectif.
De la tonne de carbone. De la tonne de CO2, exactement, oui. De dioxyde de carbone. Pour résoudre le problème climatique, c'est ça qu'on devrait faire. Donc c'est du devoir-être, c'est de la prescription. Les chiffres, c'est qu'on... Alors, aujourd'hui, le prix mondial moyen, c'est 3 dollars la tonne de carbone. Or, Union européenne, c'est 2 dollars. Et le gouvernement américain propose de passer à 200 dollars aujourd'hui, déjà, allez, tout de suite, pour aller à 230 en 2030. Donc, grosso modo, la prévision officielle, la recommandation du ministère de l'Environnement américain, c'est qu'il faut multiplier le prix de la pollution carbone par 100. Pas 10,
j'ai bien
100.
Bien compris.
Et donc, ils disent, c'est le seul moyen pour réduire massivement et jusqu'à zéro, la net zéro, les réductions les pollutions climatiques. C'est monstrueux comme proposition.
Mais monstrueux, mais c'est la chose qu'il faut faire et on n'a pas le choix.
Les chiffres sont monstrueux. Alors après, ce que va faire Biden et tout, c'est compliqué et tout. Oh. Mais ça veut dire que la pensée derrière, en tout cas, ce gouvernement démocrate, il s'est fait avec des gens exceptionnellement bons. C'est 100 fois plus. Et avec ça, on peut réduire massivement, être en ligne avec ce qu'on doit faire.
Mais les Américains sont totalement schizophrènes, parce que d'un côté, ils disent ça, 200 euros, et en même temps, ils refusent de mettre en place une taxe CO2 comme on l'a en Europe.
D'accord,
donc il y a un moment, il va falloir qu'ils décident.
Oui.
Mais il y a un moment aussi, il faudra dire qui va payer, là.
Parce que... Non, mais ça, c'est très important. C'est qu'est-ce qu'on fait des recettes de ces taxes carbone, quoi. Et c'est, est-ce qu'on les redistribue?
Ou bien ou pas.
Exactement.
Bon.
Et ça, c'est un élément
majeur. C'est le gouvernement qui décidera. C'est le Parlement. C'est la vie démocratique. Il faut arrêter de vouloir faire le bien à la place des gens.
Pour que ça soit accepté, il faut que ça soit redistribué.
Toi qui le veux. Mais les États-Unis, ils n'en veulent pas. Donc tu ne vas pas décider pour le Parlement américain.
C'est bon senti.
Quand tu dis que la transition verte coûtera de l'argent et qu'elle va installer.
Ah non, parce que si chaque pays le paye, ça reste. Si chaque gouvernement le met dans ses soutes, il n'y a pas vraiment de problème.
Hein. C'est pas enfin, voilà. On en aura dit un mot. C'était un peu rapide, mais on en aura dit un mot.
200 fois, 100 fois plus.
Ouais. 100 fois plus. 230
de 2 ouais, de 2 euros
de 2 parce qu'on parle
oui, parce qu'on parle de 2. Merci Jacques Delplat, mais revenez plus souvent Jacques. Vous êtes le bienvenu. Eric Ayer et Philippe Martin, on se retrouve demain à 9h.